Bonjour et bienvenue pour cette édition du Labomatique. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux travaux de Mohamed Mantache de l'IETR ou Institut d'électronique et télécom de Rennes. Il nous parlera de ses travaux de recherche de thèse sous la supervision d'Anne-Claude Tarot. Pendant 3 ans, il a étudié les antennes textiles et les antennes souples. Laissons-lui à présent la parole pour nous expliquer de quoi il en retourne. Nous sommes aujourd'hui avec Mohamed Mantache et Anne-Claude Tarot à l'Institut électronique et télécommunications de Rennes. Aujourd'hui, nous allons parler des travaux du docteur Mantache et de son équipe du département antenne et dispositifs hyperfréquence. Bonjour Anne-Claude, bonjour Mohamed. Est-ce que vous voulez bien présenter un peu votre laboratoire et le projet sur lequel vous travaillez ?
Bonjour, donc moi je travaille au département antenne et dispositifs hyperfréquence qui est divisé en 2 équipes, donc une équipe système rayonnant complexe, donc qui va s'attacher donc au fonctionnement des antennes, et une équipe qui est plutôt liée aux matériaux fonctionnels, donc tous les matériaux utilisés pour réaliser ces antennes. Et donc l'IETR travaille dans le domaine des antennes depuis déjà une quarantaine d'années, on va dire, et depuis peu on s'intéresse donc au développement d'antennes sur textile, donc depuis 3 ans avec le démarrage de la thèse de Mohamed et Mantache, qui est lié aussi à un projet ANR Metavest. Donc la thématique antenne textile a été initiée donc à l'IETR dans le cadre du projet Metavest. C'est un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, donc l'ANR, et labellisé aussi par 2 pôles de compétitivité qui sont le pôle imagerie réseau et le pôle solutions communicantes sécurisées. Par ailleurs, donc, les partenaires sont au nombre de 5. Donc, il y a 2 partenaires académiques qui sont l'Institut d'électronique fondamentale, l'IEF, de Paris-Sud, et le laboratoire d'électronique et d'antennes et télécommunications, le LEAT, de Nice. Et par ailleurs, donc, 2 industriels sont présents dans ce projet, qui sont Advantenne, donc une société qui réalise les antennes, et puis Orange Labs, donc, qui a fixé donc, les bandes de fréquence pour les applications visées et qui a permis aussi les mesures de DAS, donc de débit d'absorption spécifique.
Quelles seront les applications de cette technologie dans le domaine civil ou d'autres domaines éventuellement ?
Bonjour. Le contexte de ce projet s'inscrit dans les domaines des vêtements intelligents et communicants. Et plusieurs applications secteurs peuvent utiliser ces vêtements communicants et intelligents, comme les applications militaires pour la localisation, les secteurs médicaux et sportifs, où il y a plusieurs capteurs qui nous permettent où il y a plusieurs capteurs intégrés dans les vêtements intelligents qui nous permettent d'envoyer des informations sur l'état de santé du patient ou du sportif, aussi des secteurs divertissement et des métiers à risque, comme pompiers.
Comment définir ce qu'est une antenne et pourquoi développer un nouveau type d'antenne pour ce genre de données qui ressemble à ce qu'on peut attendre d'un téléphone portable, par exemple ?
Une antenne est un élément rayonnant ou bien un dispositif qui nous permet de recevoir ou d'émettre des ondes radio, c'est-à-dire de transmettre des informations pour établir une communication sans fil. Selon l'application, l'antenne utilise des fréquences différentes. La fréquence est déterminée en fonction de la taille de l'antenne. Il existe en général plusieurs applications, comme applications Wi-Fi, GPS, GSM, comme la télévision, le radio. Et pour chaque application, on a besoin d'une antenne. Et chaque application fonctionne sur une fréquence spécifique. Par exemple, pour le téléphone mobile, l'application GSM, on a besoin d'une antenne qui couvre la fréquence de résonance de 900 MHz.
Normalement, l'élément rayonnant d'une antenne imprimée est un conducteur comme du cuivre, par exemple. Là, il s'agit de textile. Comment est réalisée cette partie conductrice textile ?
Dans nos applications, on utilise des tissus conducteurs appelés électrotextiles. Ces électrotextiles sont formés de fibres métalliques entrelacées ensemble. Ces électrotextiles sont, comme ils sont des tissus, sont flexibles et aussi souples. Et avec ces électrotextiles, on forme la partie rayonnante de l'antenne.
Est-ce que vous pourriez nous parler des recherches que vous avez conduites au cours de ces trois dernières années ?
Mon travail a consisté de répondre au cahier de charge du projet MetaVest, qui sont de faire des antennes sous textile que nous permettent de couvrir les deux bandes pour les applications Wi-Fi et 4G LTE, c'est-à-dire de couvrir les deux bandes allant de 2,4 jusqu'à 2,7 GHz et de 5,1 jusqu'à 5,8 GHz. Les antennes qu'il faut que je développe, il faut qu'elles soient flexibles, souples, afin de les intégrer dans des vêtements. Mais comme ces antennes vont être placées directement sur le corps tout le temps, il faut une protection pour le corps humain. C'est-à-dire, il faut isoler l'antenne du corps humain. Et pour cela, il faut mettre un plan réflecteur entre les deux. Si on met un plan réflecteur, c'est-à-dire un PEC, Perfect Electric Conductor, il faut conserver une certaine distance entre l'antenne et le plan réflecteur. Ce qui n'est pas très... L'antenne ne doit pas être très léger. Pour cela, il faut utiliser un conducteur magnétique et non pas électrique. Parfait. Mais ce dernier n'existe pas dans la nature, d'où on utilise une structure périodique appelée conducteur magnétique artificiel. C'est ce qui est dur durant mes travaux de thèse, c'est de trouver une structure métallique périodique pour la mettre entre l'antenne et le corps humain qui nous permette de supprimer le rayonnement de l'antenne. Afin, quand on développe l'antenne seule, la structure seule, on met les deux ensemble pour former une structure finale. Et à la fin, on fait des mesures dans notre laboratoire afin de voir les performances de cette structure. Et on a arrivé durant ces 3 ans à adopter une structure qui a répondu au cahier de charge du projet dont on travaille. Et même on a fait les mesures lorsque l'antenne a été posé sur le corps, et on a mesuré le débit d'absorption spécifique, le DAS, le débit d'absorption spécifique et la quantité de rayonnement absorbé par le corps humain lorsque l'antenne rayonne en pleine puissance. Et on a prouvé que notre antenne finale permet de fonctionner sur les fréquences souhaitées tout en protégeant le corps humain. Comme l'antenne va être posée directement sur le corps humain toute la journée, par exemple, il faut isoler cette antenne du corps. Comme lorsque l'antenne rayonne, une partie de ce rayonnement va être absorbée par le corps humain. Pour cela, il faut utiliser un plan réflecteur entre l'antenne et le corps humain afin de réduire le rayonnement. Si on utilise un conducteur électrique parfait, cela nous oblige à avoir une distance de longueur lambda sur 4 entre l'antenne et la structure et le plan réflecteur pour avoir une interférence constructive. Comme les antennes vont être posées sur le corps humain à peu près tout le temps, on a besoin de protéger le corps. D'où l'utilisation des plans réflecteurs posés entre l'antenne et le corps. Si on utilise par exemple un plan métallique, un conducteur électrique parfait, on est obligé de mettre pour nos applications à 2,4 GHz une épaisseur de 3 cm entre l'antenne et ce plan. D'où, on utilise un autre plan, mais cette fois un plan magnétique conducteur, afin de réduire l'encombrement de l'antenne, afin de réduire l'épaisseur entre l'antenne et ce plan. Mais le plan magnétique conducteur n'existe pas dans la nature. Pour cela, on est obligé d'utiliser une structure appelée une structure conducteur magnétique artificielle. Ces structures sont des structures périodiques métalliques. Ces structures nous permettent de poser tout de suite l'antenne sur le corps tout en supprimant l'éloignement arrière causé par l'antenne. Et comme ça, on peut protéger le corps contre l'éloignement de l'antenne.
Faisons maintenant une petite pause musicale avec le titre Dead Ringer de Den. Thank you. C'était donc Dead Ringer de Den. Laissons Emma nous parler de l'aspect technique et de la difficulté de la fabrication des antennes flexibles.
Quelle est la difficulté dans la fabrication d'une antenne textile par rapport à une antenne standard?
Les antennes standards sont réalisées en utilisant une machine laser qui coupe automatiquement ou numériquement le conducteur, tandis que les antennes textiles peuvent être coupées à la main. Et aussi, pour faire des antennes, on a besoin d'avoir une très grande précision. La machine laser nous donne ça par rapport aux antennes standards, tandis que les antennes sur textile, on a besoin d'être, comme ils sont des antennes très sensibles, on a besoin de beaucoup de travail afin de couper au millimètre près. Un autre problème, c'est le rapport du conducteur sur le textile. Pour les antennes sur textile, on a déjà dit qu'on utilise un tissu conducteur qui s'appelle électrotextile. Pour reporter cet électrotextile sur le textile, il y a plusieurs méthodes. Ou bien on utilise des colles, mais le colle pour coller l'électrotextile sur le textile, elle a une permittivité relative qui peut changer la permittivité relative du substrat de l'antenne, ce qui varie les résultats souhaités. Et aussi, pour alimenter les antennes, on a besoin d'utiliser des connecteurs, par exemple des câbles coaxiales. Pour les antennes standards, c'est très simple, on peut souder comme le substrat, il est rigide, et le conducteur, tandis que pour les antennes sur textile, comme le substrat et le tissu lui-même, à cause de la haute température de soudage, ça peut détériorer le textile et son électrotextile. Pour résoudre le problème de la température, il y a plusieurs possibilités, par exemple d'utiliser un colle, mais d'optimiser après l'antenne pour récupérer les fréquences souhaitées, ou bien il y a plein de gens. Moi, j'ai essayé un peu de tisser le tissu conducteur avec le textile, d'utiliser des fils.
Au niveau des applications actuelles, qu'est-ce que vous avez mis au point dans le cadre de vos recherches en ce moment?
À côté de la structure finale, l'antenne sur une structure périodique qui protège le corps et qui nous permet de couvrir les deux bandes Wi-Fi et 4G LTE, J'ai développé une antenne à base de la fermeture éclair d'un pantalon jeans. Cette antenne a été choisie meilleure innovation pour l'année 2012 au journal Electronic Letter. Et cette antenne est une antenne à faible coût. Il est simple à intégrer dans les vêtements, flexible et nous permet facilement de couvrir la bande basse Wi-Fi.
Et tu peux parler des autres antennes que vous avez conçues, que tu m'as montrées,
non? Ok. Durant cette thèse, j'ai développé et réalisé plusieurs antennes sur la feutrine, sur les pantalons jeans, pour différentes applications, j'ai réalisé des antennes double bande, mono bande, large bande. Alimenté par des lignes coplanaires, des lignes microstrip. C'est-à-dire qu'ils peuvent être intégrés facilement à des circuits électroniques ou bien alimentés très simplement.
Alimenté très simplement.
Non, ou bien.
Comment est-ce qu'on pourrait remplacer ça? Donc, comment en êtes-vous arrivé à vos résultats sur votre recherche? Quel a été votre angle d'approche vis-à-vis des problématiques que vous avez eues avec les différents types d'antennes que vous avez mis au point?
Alors, on est parti d'une structure d'antenne dite coplanaire, c'est-à-dire métallisée sur une seule face. Alors, une antenne coplanaire, pourquoi? Pour nous permettre de couvrir les deux bandes Wi-Fi. Ce qui n'était pas possible avec une antenne patch classique. Donc, l'inconvénient de cette antenne coplanaire, c'est qu'elle n'a pas de plan de masse à l'arrière et donc favorise un rayonnement en direction du corps humain. Donc l'idée c'était, on avait deux solutions, soit mettre un plan de masse, un conducteur donc de type électrique, mais qui suppose être à une distance typiquement de 4 cm vu nos applications. Donc vous imaginez une antenne de 4 cm d'épaisseur posée sur le corps, ou bien d'utiliser non plus un conducteur électrique, mais un conducteur magnétique, cette fois-ci, qui nous permet de déposer l'antenne le plus près possible de ce plan conducteur magnétique. Alors en fait, ces conducteurs magnétiques n'existent pas dans la nature, il faut les fabriquer, ce qu'on appelle des conducteurs magnétiques artificiels, et on les a réalisés donc avec des structures périodiques qu'on appelle des matériaux BIE ou encore des métamatériaux. Donc tout le travail de thèse de Mohamed en fait s'est focalisé sur le développement de ces structures qui sont de nature très faible bande passante, et il fallait pouvoir s'optimiser dans deux bandes différentes, un peu plus simple.
Qu'avez-vous réalisé avec la structure développée pendant notre thèse sur les antennes textiles, et quel avenir voyez-vous pour les antennes textiles et les antennes flexibles?
L'antenne finale que j'ai développée et j'ai réalisée, après qu'elle a montré des bonnes performances, on a utilisé pour des applications des métiers à grand risque. C'est-à-dire on l'a intégrée à un démonstrateur qui était une veste de pompier. L'émetteur était une petite caméra posée sur une veste de pompier. Cette caméra avec un circuit intégré avec l'antenne sur textile nous permet d'envoyer, de transmettre des informations vidéo d'après l'antenne posée sur la veste vers un autre centre placé plus loin. Par exemple, si le pompier il est dans une cave, les autres pompiers placés à l'extérieur de cette cave peuvent visualiser en temps réel qu'est-ce qui se passe autour du pompier. Et cette antenne avec la petite caméra posée sur la veste intégrée à cet vêtement, elle est simple, elle n'est pas lourde et elle permet la communication sans fil. Et par rapport à ce domaine, les antennes sur textile, ce domaine est maintenant à la mode. Plusieurs projets ont commencé à apparaître. Et on voit maintenant sur la télé plusieurs exemples. Par exemple, j'ai vu avant 2 jours que l'équipe du rugby, l'équipe de la France, utilise des antennes et des capteurs intégrés sur leurs vêtements afin de localiser que le coach qui y est placé, qui regarde le match, il voit ses joueurs, la distribution de ses joueurs, comment ils sont distribués sur le terrain.
Quelles sont les perspectives envisagées pour les antennes flexibles et les vêtements intelligents au sein de l'ETR à l'avenir?
Alors actuellement, on envisage remplacer les textiles par des matériaux flexibles, donc de type polymère ou autre, qui vont présenter moins de pertes que les textiles actuels. Donc, ce qu'il faut, c'est que ces matériaux soient suffisamment flexibles pour épouser la forme du vêtement. D'autre part, on va s'intéresser aussi à la métallisation de tous ces matériaux, puisque ce sont des supports un petit peu particuliers. Un autre problème donc, est celui de l'énergie, de la batterie. Hein, pour pouvoir alimenter ces antennes donc, qui vont être très souples, très légères, il faut pouvoir les alimenter avec un circuit donc, compatible, un boîtier d'alimentation qui soit d'un poids très léger. Voilà, donc c'est principalement les 3 voies sur lesquelles on se destine, donc changer de matériaux, développer des procédés de métallisation, et puis donc l'enjeu de l'énergie.
C'était Mohamed Mantache, Anne Clontaro de l'Institut électronique et télécom de Rennes. Il est temps maintenant de nous quitter, mais restez connectés sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.
Bye.